La méditation est du pape François. La vie du Seigneur est en elle-même un appel. C'est toute sa vie qui nous appelle. Toute la vie du Seigneur nous appelle, viens, suis-moi. Et la vie du Seigneur nous attire à la suite de Dieu le Fils dans sa montée vers Dieu le Père. Montée qui passe par la croix. Oui, c'est toute la vie du Seigneur, du dedans d'elle-même qui nous appelle. Et en réponse, notre vie nous consistera à nous mettre dans sa suite, pour nous laisser former par notre maître, pour que Jésus, douceur et humilité du cœur, façonne notre cœur à l'image du sien, et bien pour nous, suivre le Seigneur revient à accomplir ce qu'il veut, ses commandements. Saint Jean l'affirme avec beaucoup de clarté, c'est à ceci que nous savons que nous connaissons Dieu, c'est si nous gardons ses commandements. Et celui qui prétend demeurer à l'intérieur de Dieu doit se conduire à son tour comme lui a marché, comme lui s'est conduit. Alors gardons les commandements qu'il nous demande de vivre, les commandements qu'il nous demande de vivre, les béatitudes du royaume de Dieu. Le contraire de cela, ce serait une illusion. Une illusion. En gardant les commandements, nous vivrons les commandements des béatitudes. Et nous lutterons contre l'illusion. Contre l'illusion des attitudes d'avarice. Qui prennent le manteau illusoire de la générosité. Parce que suivre de très près Jésus, c'est suivre Jésus sur le chemin qu'il a parcouru le premier. Vivre sa vie et la vie du Seigneur et cet appel, viens suis-moi. Et cette suite, c'est celle de Dieu le Fils, dans sa montée vers Dieu le Père. Est une montée qui passe par la croix. Merci très Saint-Père, savoir expliquer. Ah, que c'est beau Saint-Père, nous fêtons aujourd'hui Saint-Cyril d'Alexandrie. C'est facile de se rappeler Saint-Cyril d'Alexandrie, dès que vous voyez Saint-Cyril, il faut toujours l'associer à Saint-Joseph et à Saint-Patrick, parce que ce soit Saint-Cyril de Jérusalem, qu'on fête le 18 mars entre Saint-Patrick et Saint-Joseph, ou Saint-Cyril d'Alexandrie qu'on fête aujourd'hui, parce que Saint-Cyril d'Alexandrie est lié à Saint-Patrick, parce qu'il est mort le jour où Saint-Patrick à Armagh, en Irlande, a construit la première cathédrale du monde. La première fois qu'une cathédrale, c'était en Irlande. Et c'était en l'an 444. Et c'était l'année où Saint Cyril s'est endormi après avoir été celui qui a achevé finalement le cycle des tout premiers conciles de l'Église. C'est grâce à lui que Marie à Éphèse a été proclamée mère de Dieu. Pas seulement mère de Jésus qui est Dieu, mais pas seulement mère de l'union hypostatique de Jésus. Non, non, non. Mère de Dieu. Elle est mère de Dieu. Et la foi a pénétré. Saint Cyril était quelqu'un de très sévère, de très pugnace. Il y avait par exemple des évêques, des gens qui n'étaient pas d'accord avec Nestorius, par exemple, le nestorianisme. Et ben, il il n'a pas été tolérant du tout avec lui. Mais pas du tout. Il a été terrible. Il a dit, vous êtes... Il a combattu. À cette époque-là, il fallait être très, 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 très clair, très ferme. Si Nestorius n'avait pas été écarté, je veux dire, on n'aurait pas pu proclamer au concile d'Éphèse que Marie était mère de Dieu. Et dès qu'il y a l'air qu'il s'agit de Marie, souvent c'est des grands combats. C'est souvent comme ça. Et Nestorius disait, mais non, on ne peut pas dire que Marie soit mère de Dieu, parce que le Père soit le Père, parce qu'il est Dieu, de Dieu qu'il conçoit éternellement. Marie, c'est une créature. Comment Marie peut-elle être éternellement? Ça voudrait dire qu'elle est un être éternel, donc ne disons pas qu'elle est mère de Dieu. Sinon, ça voudrait dire qu'elle est un être éternel. Elle n'est pas un être éternel, puisque c'est une créature. C'est notre sœur, elle est fille d'Adam, comme nous. Elle a été sauvée par le Christ. Alors, elle n'est pas un être éternel, elle n'est pas une quatrième personne de la Très Sainte Trinité. Donc, avec des choses... Des idées comme ça, faciles, on pouvait ridiculiser la foi dans la maternité divine de Marie. Alors, en fait, comment une créature peut-elle être la mère de Dieu? Elle est la mère de Dieu. Alors, c'est pour ça que Saint Cyril d'Alexandrie a... pour sauver précisément le fait de l'hypostase, le fait que Jésus est Dieu, pour sauver le fait que Jésus n'a pas de personne humaine, et que l'intelligence de Jésus, le cœur de Jésus, l'âme de Jésus, le corps de Jésus, le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus, et l'union hypostatique finalement, eh bien, elle... C'est celle de Dieu, c'est celle du Verbe de Dieu, c'est celle de Dieu le Fils, c'est celle de la conception à créer de Dieu. La conception à créer de Dieu, c'est la deuxième personne de la Très Sainte Trinité. Il est engendré, non pas créé. Parce que si Marie n'était pas mère de Dieu à ce moment-là, ce serait une créature qui serait mère du Verbe incarné, et donc la créature serait mère d'une créature. Et donc, il y aurait une personne humaine. Il y aurait deux personnes humaines dans un seul Christ, par exemple. Et bien, ça, c'est pas vrai. Mais il y a aussi une autre manière de voir, c'est que Marie, elle-même, elle dit, mais je suis qu'une petite enfant, je suis rien. Elle sait la distance sans limite et sans fin absolue, substantielle, qu'il y a entre Dieu et elle. Même avec la plénitude de grâce accomplie, mais la plénitude reçue de la lumière de Dieu. Elle sait très bien qu'il y a une distance très 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 grande. Elle dit à l'ange, mais comment faire, puisque je suis vierge. Je suis inféconde du point de vue de Dieu, du point de vue de l'éternité. Alors l'ange lui dit, ne t'inquiète pas, Marie, n'aie pas peur. Le Saint-Esprit, Spiritus Sanctus, superveniet in te, du dedans de toi, in te. Superveniet, il y aura une supervenue, du dedans de toi va supervenir. Spiritus Sanctus, le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va tout faire. Et le Saint-Esprit, lui, il est éternel. Et il prend les sommets et les profondeurs d'une plénitude de lumière divine reçue en toi. Tu es plénitude de grâce. Je te salue, plénitude de grâce. Car la plénitude de la grâce, de toutes les participations à la vie divine, trouve sa plénitude de la frontière, le Saint-Esprit, du dedans, l'a fait éclater et l'a fait rentrer dans ce qu'il est lui-même. Il vient actuer. tout ce que dit l'Immaculée Conception et la maternité divine d'un Messie qui ne serait qu'une créature et qui serait pourtant comme une hypostase de Dieu. Voilà, dans une unité de personne, et bien, même exploser tout ça. Et du coup, dans lui-même, c'est-à-dire dans l'éternité du Saint-Esprit. Et c'est tellement grand, c'est tellement fort, et la créature elle-même ne pourra pas supporter une telle actuation. Alors, la paternité de Dieu, obumbrabit, t'obombrera. La toute-puissance de l'effacement de Dieu le Père, dans la fruition du Saint-Esprit, va t'obombrer, va tout rassembler dans sa disparition, et donc tu vas disparaître toi-même dans cette même disparition. Et alors, le Dieu, il y aura la conception de Dieu, il y aura la conception du Verbe de Dieu. Et Marie, donc, elle dit oui à cette disparition, alors qu'elle est mariée, alors qu'elle dit que nous sommes faits selon ton Verbe. Que tout se fasse cela comme selon ton Verbe, ta parole. Et là, il y a une super venue du Saint-Esprit, du dedans d'elle-même, une obombration qui a tout ramassé en elle. L'a fait disparaître, elle a été assumée. Très beau, c'est-à-dire savoir que l'Assomption a commencé comme ça. Et que cette Assomption a continué ensuite pendant plus de 50 ans. Jusqu'à sa dormition à elle. Et l'Assomption a commencé comme ça, elle était assumée à l'intérieur. À l'intérieur de la paternité obombrante de Dieu, dans la super venue du Saint-Esprit. Dans tout ce qui était en puissance. Le Saint-Esprit est l'actuel, le Saint-Esprit est l'acte de ce climat que la conception, dans toutes ses fécondités messianiques, est en puissance. Et donc la puissance a disparu dans l'acte. Parce que ce que fait Saint-Esprit est toujours hypostatique et éternel. Et donc la partie créée de Marie a disparu, si je puis dire, tout en étant intégrée dans l'embombration et la disparition du Père. Le Père n'a pas disparu non plus dans son effacement, hein, à l'intérieur de la fruition, de la passivité, de l'acte éternel du Saint-Esprit dans l'Immaculée Conception. Mais c'est une double disparition pour faire ange, pour faire naître quelque chose, pour qu'une nouvelle conception dans l'incréé de Dieu, c'est bien dans l'incréé de Dieu, puisque c'est deux personnes divines, le Père et le Saint-Esprit, c'est bien dans l'incréé de Dieu. Et ce qui a provoqué ça, c'est cette assomption de la plénitude reçue de la lumière de la foi de Marie, sous l'effet, précisément, de la supervenue du Saint-Esprit en elle et de l'obombration. Alors du coup, Dieu le Fils, qui est la contemplation de Dieu, ce que Dieu voit éternellement, Dieu voit tout, Dieu voit Dieu dans toutes ses profondeurs, Dieu voit tout, il est lumière née de la lumière, Dieu est contemplation. Il voit tout Dieu, il en est l'assimilation, la conception. Quand tu comprends quelque chose, d'un seul coup, tu le conçois parfaitement, ce que tu penses, ce que tu vois. Et Dieu conçoit parfaitement ce qu'il est, il voit tout ce qu'il est, il contemple tout ce qu'il est, il l'assimile, il en vit. Il intériorise, j'allais dire. Dans la péricorèse, en face à face, en une seule hypostase, si je puis dire. En une seule hypostase qui est précisément l'aspiration active du Père et du Fils. Et comme il y a une incentive, comme disent les Anglais, ça, le oui de Marie a pénétré jusqu'à l'intérieur de Dieu. Dans cette opération où le Père et l'Esprit Saint assument Marie dans une assomption. Dans leur rencontre agréée. Et du coup, ça a obligé le Verbe de Dieu qui voit tout, Dieu qui voit tout, Dieu qui conçoit Dieu partout, Dieu qui conçoit, qui assimile, qui, dans toutes ses profondeurs, dans toutes ses dimensions, dans tout ce qu'il est. La foi de Marie a engendré à l'intérieur de cette vision de Dieu, la vision éternelle de Dieu, sur sa propre. Son propre regard à l'intérieur de la création, substantielle de la création, dans l'intérieur substantiel de la création. Et de sorte que Marie, en disant oui, et en se laissant assumer, a engendré, a provoqué, a engendré avec le Père et dans l'inspiration du Saint-Esprit et l'acte du Saint-Esprit, qui est un acte éternel, il ne faut pas l'oublier, eh bien, le respectus, un regard intérieur où Dieu regarde désormais, où Dieu regarde toujours, où Dieu regarde éternellement, dans le Verbe, dans la deuxième personne de la Très Sainte Trinité, son incarnation. La lumière immaculée en pleine reçue de Marie a pénétré en Dieu pour que il n'y a pas d'incarnation, mais à ce moment-là, mais c'est la lumière naturelle de la foi, ce n'est pas de la chair et du sang, mais c'est à partir de la chair et du sang de Marie. Et cette lumière surnaturelle de la foi a engendré à l'intérieur de Dieu ce regard éternel de Dieu vis-à-vis de son incarnation. Et du coup, il a pénétré dans cette lumière, parce que la lumière en plénitude reçue, sous l'opération du Saint-Esprit, est certainement quelque chose de créé. Et permet à ce regard éternel de Dieu de rentrer dans la... Sans qu'il y ait aucun voile entre les deux, entre sa lumière qu'il est en tant que lumière née de la lumière, et cette lumière divine, toute pure, quasi-substantielle, de plénitude reçue, de la participation à la vie divine, qui est la foi de Marie. Et du coup, il a pu voir qu'à l'intérieur de Dieu, la vie divine de Dieu était là. Et donc, elle a engendré par sa foi, donc, un regard de Dieu, le Fils, de Dieu le Verbe, vis-à-vis de son incarnation. Il s'est englouti dans la foi de Marie pour prendre chair et s'incarner. Mais ce regard du Verbe de Dieu vis-à-vis de son incarnation, ça, c'est un regard éternel. C'est pas un regard créé. C'est à partir de lumière surnaturelle, en plénitude reçue, sous l'opération du Saint-Esprit et l'approbation du Père, qui est créé, c'est vrai. Tandis qu'elle est assumée, mais ça, ce n'est pas. Mais le regard que ça engendre, qu'en conçoit le Père, dans la contemplation qu'est le Fils, on appelle ça le regard éternel de Dieu le Fils, vis-à-vis de son incarnation, ça c'est éternel. C'est éternel. La toute-puissance créatrice de Dieu, elle aussi, est éternelle. Et elle se confond presque. Tu ne peux pas dire que ce n'est pas la toute-puissance créatrice de Dieu éternelle qui est le principe de la création. Et c'est pour ça d'ailleurs, entre nous, se dit que la toute-puissance créatrice de Dieu et la paternité de Dieu se trouvent bien elles-mêmes comme participation de son éternité dans sa présence créatrice. Parce qu'il est le Père, c'est pour ça que de venir mettre un coup de couteau de scalpel là et éventrer cette présence là touche quand même quelque chose qui est beaucoup plus que quelque chose de créé. Et bien, Saint Cyril d'Alexandrie, ben, il a ça. Voilà. C'est éternel, ce regard de Dieu vis-à-vis de son incarnation. Et c'est évidemment l'assomption de la foi de Marie, sous la supervenue du Saint-Esprit, qui a été la source, avec le Père, de l'engendrement de la conception incréée de Dieu, qui est la deuxième personne de la Très Sainte Trinité. Dans la disparition des deux, son obéissance, son humilité, son effacement, avec l'effacement, l'inspiration active du Père, eh bien, il y a eu ce regard qui s'est produit, qui a été engendré éternellement dans Dieu le Fils. Cet engendrement éternel dans Dieu le Fils, ce regard vers son incarnation, elle en est la mère. Et comme c'est un engendrement éternel, d'une personne éternelle est agréée, eh bien elle est donc bien mère de l'agréé. Elle a bien engendré source de l'agréé, pas séparément du Père, pas séparément du Saint-Esprit. Mais quand même, c'est une source conjointe, exactement comme un papa et une maman sont une source conjointe d'un enfant. C'est pas parce que il y en a, ils n'ont pas le même rôle à jouer, que du coup il y en a un qui est l'unique source et l'autre est une source accidentelle. Donc, aucun des deux n'est une source accidentelle. Tous les deux sont une source personnelle. Voilà, et il a fallu donc que ce soit Saint Cyril d'Alexandrie, concile d'Éphèse, qui dise Marie, mère de Dieu. Voilà. Et Nestorius, il est prié de rester dehors. Et en fait, aujourd'hui, Saint Cyril d'Alexandrie, magnifique, magnifique. Non, on a toujours la possibilité de dire, voilà, j'ai une générosité chrétienne, j'ai une générosité messianique, j'ai une générosité transfigurante du Messie, de l'onction divine, de l'union avec Dieu, de surabondance, je me donne à fond dans ma spiritualité, tout ça. Et puis en fait, c'est une illusion. Voilà ce que dit le pape François. Cette générosité de sainteté, en fait, c'est une avarice. C'est parce que je crois à ma sainteté. Marie s'est pas attachée à sa sainteté. Elle savait très bien que sa sainteté, qui vaut en poids, en nombre et en mesure, beaucoup plus que des myriades de fois toutes les autres saintetés, elle sait très bien que sa sainteté n'est pas à elle. Elle n'est pas avare de sa sainteté. Elle n'est pas dans l'illusion de la générosité de la sainteté de son Immaculée Conception. Et Saint Joseph, il le voit ça en Marie. Il reconnaît ce mouvement d'effacement devant Dieu. Il le reconnaît. Il le reconnaît d'autant plus qu'il a été lui aussi un jour assez assumé. Quand il avait 19 ans, pour être le principe conjoint de la création d'une créature, l'Immaculée Conception. Il a été le principe conjoint, donc il sait de quoi il s'agit. Il sait qui elle est. Il est le principe conjoint d'une créature parfaite, de plénitude de grâce. Et Marie a été principe conjoint avec la paternité de Dieu, incréé, d'une vie incréée et éternelle. Et cette vie incréée et éternelle n'est pas une créature. Le regard, l'union hypostatique, c'est plus qu'une créature, même si c'est créé à un moment donné, parce que cette union hypostatique procède d'un regard contemplatif, éternel et incréé, parce que c'est le contemple, cette contemplation qui est le Verbe de Dieu, la lumière, et de la lumière, la contemplation, la conception. Dieu est conçu comme Dieu. Et le pape, il dit, attention, c'est pas la générosité et l'illusion de l'illusion avare de la générosité. C'est bizarre comme expression. Vous la connaissiez sûrement pas. Il ne faut pas rentrer dans l'illusion avare de la générosité. C'est Dieu seul qui compte. C'est pas ta sainteté, ta générosité. Quand on suit Jésus, c'est le mouvement personnel de Dieu le Fils qui monte vers Dieu son Père en montant sur la croix. Voilà ce qu'il dit le pape François. C'est ça ce mouvement que Saint Joseph a vécu depuis qu'il est enfant, avec le parfum du nard. Il a suivi, avant que Jésus n'existe, ce mouvement de Dieu le Fils vers Dieu le Père, en passant par l'union hypostatique de Jésus. Voilà ce que vient de dire le pape François. Il faut suivre Jésus. Alors si vous mettez au bord du lac, et que le scribe arrive en disant « Moi je te suivrai partout, tu vas... » Jésus est passé d'une rive à l'autre du lac. Le lac, ça représente le temps, tous les temps. Donc passer d'une rive à l'autre, c'est rentrer dans le mystère du temps et passer de l'autre côté dans l'accomplissement de la volonté incréée du Père Et le scribe, il arrive, il dit, moi je te suivrai partout, tu iras. Et Jésus dit, Jésus lui répond quelque chose de beau, hein. Dans le Fils de l'homme n'a pas de pierre où reposer sa tête. Les renards ont des terriers, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme. N'a pas de pierre où reposer sa tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu suis ce Dieu qui monte vers le Père à travers, en rentrant dans le mystère du temps, passant d'un côté du lac à l'autre, il faut qu'il passe par le mystère. Il faut qu'il passe par le mystère de. Il faut qu'il passe par la. Cette montée, c'est le mystère, c'est la sagesse de la croix. Et donc Adam, eh ben, qui a été le premier inscrit dans l'image ressemblance de Dieu, la plénitude de grâce et de perfection. Quand il dit, quand il rentre dans l'avarice du paradis terrestre, la générosité du paradis terrestre, et l'illusion d'avarice du paradis terrestre, il sent chez lui, au paradis terrestre avec Ève, il se sent bien dans cette sainteté, cette perfection, cette vie divine infuse en intérieur d'eux. Te leur appartient, et la volonté éternelle du Père ne leur fait pas comprendre quand même que ça, c'est, ça ne leur appartient pas, ça appartient à Dieu, le paradis appartient à Dieu. Ces richesses de sainteté toute pure, pas l'ombre d'un péché, pas l'ombre d'une absence de Dieu, pas l'ombre d'une absence de communion avec Dieu. Il dit, je veux te suivre partout où tu iras, Seigneur Dieu, si c'est comme ça. Et Dieu lui dit, ben c'est pas comme ça si tu prends cet arbre. Et il a pris de cet arbre. C'est pour ça que Jésus répond ça au scribe. Adam, lui, il faut qu'il fasse cette montée pour l'humanité tout entière. De Dieu le Fils à Dieu le Père à travers la sagesse de la croix, c'est-à-dire la sagesse, à travers la crucifixion de son innocence, la crucifixion de sa volonté humaine, la crucifixion de ses générosités, de ses saintetés et de sa grâce originelle, la crucifixion qui ne vive que de la volonté éternelle du Père et pas de sa volonté même la plus sainte qui soit. Alors il répond au scribe, le Fils de l'homme n'a pas pierre où reposer sa tête. Le renard en est terrier. Alors je te donne le paradis terrestre, je te donne la sainteté, je te donne la contemplation infuse, je te donne tout comme moi j'ai et nous ensemble avec toi. Mais le Fils de l'homme n'a pas de pierre où reposer sa tête. Il doit aller dans la sagesse de la croix, renoncer à sa volonté humaine, à sa volonté même divine, pour entrer dans la volonté éternelle du Père. Et voilà pourquoi tu ne prendras pas cet arbre qui te rappelle que tu n'es pas chez toi, tu es chez Dieu ici. Sur la terre, tu appartiens à Dieu. Et tu ne peux vivre sur cette terre que si tu te nourris de la volonté éternelle du Père. Adam devait obéir. Obéir. Se jeter sans arrêt, au-delà de lui-même, au-delà des grandes profondeurs de toutes les saintetés pures de la terre, dans la sainteté pure de Dieu. Et tout le temps, se dépassant tout le temps lui-même dans l'obéissance, en se nourrissant de la volonté éternelle d'un autre que lui. Voilà pourquoi le pape dit, il n'a pas dépassé le stade illusoire de l'avarice de la générosité. Et quand le disciple vient, il dit, mais laisse les morts enterrer leurs morts. Le disciple vient, c'est vrai, un disciple vient. Et il dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Ah, alors là, oui, ben, lorsque celui qui est obéissant, le disciple, c'est quand même quelqu'un qui est obéissant, qui suit le Christ, il dit, je vais enterrer d'abord mon père et ma mère. Laisse les morts enterrer leurs morts. ton père et ta mère. C'est Dieu le Père. C'est mon Père. Et Marie est mère de Dieu. Alors, ne t'occupe pas. Et ne t'occupe pas d'enterrer les morts. Parce que sinon, tu n'es pas impropre au royaume de Dieu. À partir du moment où le péché est originel, te préoccupe pas de la mort, te préoccupe pas. Tu rentres simplement dans la vie du Fils qui monte vers son Père à travers le mystère de la croix, et comme ça la mort n'existe plus. Et si pour toi la mort de ton Père, la mort de ta mère sont encore quelque chose, ça veut dire que tu n'as pas compris le mystère de la croix, parce que la sagesse incrée, la volonté éternelle du Père, c'est précisément que Dieu le Fils, qui est toujours vivant, monte vers Dieu le Père, qui est toujours vivant à travers le mystère de la croix, de sorte que la mort n'existe pas. Et si tu t'inscris dans ce mouvement qui traverse le lac de Galilée d'un bord jusqu'à l'autre, c'est-à-dire si tu suis Jésus partout où il va, à ce moment tu rentres à fond dans le mystère de la croix, et la mort n'existe plus pour personne. Et si tu ne le vois pas, alors à ce moment-là, tu es impropre pour le royaume des cieux. C'est de Dieu qu'on vit, on vit de cette grande sagesse de la croix. Et il y a toujours, et les deux faces, c'est celle-là. Celle qui est représentée par le scribe, celle qui est représentée par le disciple. Bien, c'est bien, aujourd'hui j'aime bien aimer, parce que j'ai bien aimé le chapitre 2 et verset 6 du prophète Osée. C'est beau, hein. Il dit voilà, le prophète Osée s'est levé, et puis Dieu dit à Osée, à cause de mon peuple qui a commis 3 crimes, en fait il en a commis 4. Alors à ce moment-là, je ne peux pas accepter. Il y a 3 choses que je ne peux pas accepter, et même 4. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a 3 choses, je vais vous le relire, à cause de 3 crimes, et même de 4, je l'ai décidé sans retour. Je l'ai décidé sans retour. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé, c'est autre chose, mais ce que je vais regarder simplement, c'est relire avec vous, regardez. Ils vendent le juste pour de l'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Voilà le premier crime. Ils écrasent la tête des faibles dans la poussière, aux humbles, ils ferment la route. Voilà le deuxième crime. Le fils et le père vont vers la même fille et profanent ainsi mon saint nom. Et auprès des autels, ils se couchent sur les vêtements qu'ils ont pris en gage. Voilà le troisième crime. Et dans la maison de leur Dieu, ils boivent le vin de ceux qu'ils ont frappé d'amande. Voilà le quatrième crime qui est lié au troisième. Et là, vous avez donc le péché originel. Le péché contre le Fils de Dieu. Regardez. Ils vendent le juste pour de l'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Ils ont vendu le Messie. Ils ont vendu Joseph. Ils ont vendu Joseph aux Égyptiens. Ils ont vendu. Leur Messie est le Fils unique de Dieu aux Romains. Pour de l'argent et au Sanhédrin pour le malheureux, quoi. Le crucifié, le serviteur souffrant, ils l'ont vendu pour une paire de sandales. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas voulu être ses disciples. C'est une expression, hein, dans l'hébreu. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales, ça veut dire. Je ne suis même pas digne d'être son disciple. Je ne peux pas être un de ses apôtres. Je ne peux pas être un de ses disciples, je ne suis même pas digne. Regardez, le possédé dit, est-ce que je peux suivre? Non, non. Il a compris qu'il n'était pas digne d'être son disciple. Jean-Baptiste disait, je ne suis pas digne d'être son apôtre. Ils n'ont pas voulu être ses disciples. Et ça, c'est la prévarication, c'est la transgression vis-à-vis du Verbe de Dieu, la vérité qui est jetée à terre. Parce que quand Dieu crée, mais oui, mais si la liberté des hommes commet l'insuffisance, alors à ce moment-là, ben, il faudra que je passe et que je sois vendu à mes frères, pour mes frères. Et que je prenne sur moi l'iniquité. Et c'est la transgression contre le malheureux. Ils auraient pu respecter quand même le serviteur souffrant. Ce n'était pas nécessaire qu'ils crucifient le Seigneur de gloire. Ils auraient pu accepter le serviteur souffrant. Ils n'avaient pas, à le vendre aux démons, aux hégémonies, en disant c'est Belzébuth, je sacrifie aux démons. Un peu comme l'évêque Cochon a sacrifié Jeanne d'Arc. En sacrifiant, en disant c'est une sorcière, donc elle a sacrifié au démon. Il n'était pas obligé. Hein. Le résultat est le même. Et la rédemption aurait eu lieu quand même. Hein. C'est sûr. Et c'est la première transgression. Ils écrasent la tête des faibles dans la poussière. Aux humbles, ils ferment la roue. Voilà. Et ça c'est la première transgression, c'est le péché originel. Ils n'ont pas voulu voir ce que tu dis, ils ont écrasé la tête des faibles. C'est une transgression qui vient de Satan, en fait. Il a écrasé la faiblesse, là où Adam était le plus faible, du côté de la concupiscence. Et il a fermé la route à l'humilité. Et c'est sûr que les trois concupiscences, c'est un petit peu cette espèce d'avarice de ce qu'on possède déjà et qui ne vient pas de nous et qui nous rend humbles. Alors du coup, on cherche à le garder. Et on est séduit par ce fait que peut-être quelqu'un nous dit « Vous pouvez le garder pour vous. » Et qui engendre du coup la concupiscence de l'esprit qui est la fermeture de la porte à l'humilité du paradis terrestre. Terrestre, c'est une humilité totale. Cette humilité, cette douceur, cette onction, cette sainteté, cette béatitude. Originelle infuse. Voit sa porte fermée à cause des trois concupiscences parce que l'œuf, oui, est quand même agréable à regarder. Il a l'air bon à manger. Et les trois concupiscences sont là, je vais m'occuper. Je vais prendre quelque chose qui est... Je ne vais pas prendre Dieu. Je vais prendre tout ce que Dieu me donne en se donnant lui-même à nous. Mais je ne vais pas prendre Dieu pour lui-même, en lui-même, dans l'éternité de lui-même. Et c'est l'humilité qui est écrasée dans la vision qu'on regarde, qu'on fait dans les trois concupiscences. Ça, c'est le péché originel, la transgression. Originel qui est visé là. Et la troisième transgression, ben c'est le crime suivant. Le fils et le père iront vers la même fille. Profane ainsi mon saint nom. Et oui, la présence de Dieu. Comment ça? Comment l'homme, le père et le fils, réalisent la responsabilité comme ça? En inversant la responsabilité dans la profanation de l'acte créateur de Dieu. On ne revient pas sur le Père a engendré son Fils, donc Dieu a procréé ce Fils. Donc on ne revient pas à l'intérieur de cette procréation pour y mettre une nouvelle procréation avec la même fille. Avec. On voit bien que c'est la transgression suprême, le bouleversement des genres, l'inversion l'abomination qui est là. Et ils se couchent sur les vêtements qu'ils ont pris en gage. Et la conséquence, c'est le quatrième crime. C'est si on fait l'inversion de l'abomination de la désolation. Alors à ce moment-là, ils se couchent sur les sacrements. Ils prennent les sacrements que j'ai donnés à mon Église. Et ils en inversent la signification dans le Saint-Dessin. C'est une espèce de sacrifice à Satan, à la face même du Père. Et le crime, c'est le quatrième, mais il est lié au troisième. Ils boivent le vin de ceux qu'ils ont frappés d'amende dans la maison de leur Dieu, dans le Saint des Saints lui-même. Ils boivent le vin de l'ivresse de ceux qu'ils ont trompés, en disant pas ce qu'ils font. C'est à ce moment-là, le vin, c'est la messe. Le manteau, c'est le sacrement. Et donc au lieu d'aller au fruit des sacrements, qui consiste à rentrer à l'intérieur de Dieu le Fils, montant dans Dieu le Père, dans la course du Saint-Esprit, dans le mystère de la croix, eh bien, ils rentrent dans la troisième transgression. Ils inversent la signification du sacrement. Et c'est pour ça que la prostituée, qui est la partie, pas déchue, mais corrompue, vous voyez, je sais pas, la partie de l'Église qui s'est donnée à Satan, quoi. Il y a toute une partie du peuple de Dieu qui en masse se donne à Satan, ça s'appelle la prostituée qui chevauche la bête dans l'Apocalypse. Nous, on dit la franc-maçonnerie ecclésiastique, l'Église qui devient franc-maçonnerie et qui du coup participe, prend la coupe, le vin des abominations dans le Saint des Saints, dans la bête Elohim. C'est bien ça le Saint des Saints. Et du coup, l'Eucharistie devient une messe noire. Et bien, à cause de ces trois crimes, la transgression, ces trois transgressions, et même le quatrième, je l'ai décidé sans retour. Oracle du Seigneur. Je vous écraserai sur place. Comme un char plein de gerbes écrase tout sur son passage. C'est-à-dire, un char d'Élie, hein, l'ouverture du cinquième sceau, du sixième sceau, le fruit de l'Eucharistie, va écraser tout ce qui est transgressif et tous les transgresseurs sur son passage. Un char plein de gerbes, de blé. Et l'homme le plus rapide ne pourra pas fuir, le plus fort ne pourra pas montrer sa vigueur. Le héros ne sauvera pas sa vie, l'archer ne tiendra plus, le coureur n'échappera pas, le cavalier ne sauvera pas sa vie. Même si tu te contentes d'être resté un petit peu en état de grâce, ça ne suffira pas. Il faudra vraiment rentrer dans la volonté incréée et éternelle du Père. Le coureur n'échappera pas, le plus brave s'enfuira tout nu ce jour-là. Même les saints devront vivre sans les sacrements, parce que ce sera le fruit des sacrements. Il faut savoir lire la Bible. Bon, que Dieu nous aide quand même, parce que Marie a accepté qu'il n'y ait plus que Dieu, et elle a disparu. Et d'ailleurs, du reste, c'est ce qui a fait que toute sa vie a été comme ça. Elle ne s'est jamais... Elle n'a jamais pris possession de son immaculée conception. Elle n'a jamais pris possession illusoire de sa richesse toute divine et parfaitement et purement divine. Elle n'en a jamais pris possession. Elle s'en est toujours dépouillée. Elle a toujours été crucifiée, même là. Comme la divinité du Fils dans l'union hypostatique, il s'en est dépouillé. Et la volonté divine, parfaite et incréée de Dieu le Fils, il s'en est dépouillé. Pour ne vivre que de la volonté éternelle et divine de Dieu le Père. Voilà ce que nous explique le pape François. Que personne ne vienne nous dire que le pape François est vraiment pas spirituel du tout. Hein. Je crois qu'il faut vraiment être un gros barbare pour dire une chose pareille du pape François. D'une vulgarité, d'une grossièreté, d'un grégarisme. Ça veut dire je ne sais même pas lire, je ne sais même pas entendre. Mais pour celui qui est grégaire et barbare, tout est barbare. Pour celui qui est impur, tout est impur. Pour celui qui est antichrist, tout est antichrist. Alors il faut regarder ça à la lumière de Marie, 444, à la lumière du sacerdoce parfait, victimal du Christ, sans limite et sans fin. Et arriver dans l'horizon à s'engloutir dans ce mouvement de Dieu le Fils et de Dieu le Père, à travers l'union hypostatique qui déchire Jésus. Alors le parfum va resplendir, assumé dans l'éternité. Le parfum de l'Église, le nard. C'est comme ça qu'on fait conjoindre Jésus, Marie et Joseph. Dans le corps spirituel venu d'en haut, dans la foi de cette terre. Et ça, c'est le commandement de Dieu. Voilà ce que dit Saint-Père, François. Si tu veux savoir que tu aimes Dieu, alors tu suis son commandement. Et son commandement, c'est le royaume des béatitudes. Il n'y a plus rien. Pauvre esprit, la pauvreté spirituelle. La crucifixion absolue, la soif totale et substantielle. Le royaume des béatitudes. La pureté. À l'état divin. Bienheureux le cœur pur. Tu ne vois que Dieu. Et tant que c'est Dieu dans une émanation, dans son rayonnement, ça ne t'intéresse plus. C'est Dieu, substantiellement. Bienheureux le cœur pur, c'est Dieu qui voit de l'intérieur. C'est le royaume des béatitudes. Voilà la spiritualité catholique d'aujourd'hui. Elle est comme. C'est la spiritualité catholique d'aujourd'hui. Ou bien ce n'est plus du tout la spiritualité catholique, c'est celle de la prostituée. Qui tient dans sa main la coupe de ses prostitutions et qui chevauche la bête pour les 4 prévarications, pour les 3 transgressions et pour les 4 crimes. Ah, il faut vraiment faire horizon et s'engloutir dans l'autre, la 5e demeure où il n'y a plus que ce mouvement divin et incréé de Dieu dans le monde créé de notre horizon. Et rien d'autre, nada. Et là, on fait le plein, du coup, de l'éternité, pendant une demi-heure. Voilà l'oraison.